Bonjour, merci pour votre accueil ce matin. J'ai un petit accent, donc excusez-moi. On va lire la parole de Dieu d'abord, et puis on va nous introduire un tout petit peu, mais peut-être d'avant, on va lire la parole. C'est ça? On est bon?
Alors, je vais vous lire, on va lire dans Jean 7, 37. Le dernier jour, le grand jour de fête, Jésus, debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Il dit cela à propos de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Ensuite, dans Jean 4, 10, si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit « donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Ensuite, au verset 11. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu, toi, plus grand que nos ancêtres Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau, lui-même, ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, toute personne qui boit de cette eau aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif et que l'eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau qui jaillira dans la vie éternelle. Et finalement, le dernier passage, c'est dans Apocalypse 21. Qui est assis sur le trône dit, voici que je fais toutes choses nouvelles. Il ajouta, écris cela car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. Puis il me dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, prêt à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie.
Amen. Merci pour ta parole, Seigneur. Donc, on vient d'origine de l'Angleterre. On a vécu longtemps en Angleterre. Mais tu vas dire juste un mot de qui nous sommes et voilà, on va.
Ok, donc il y a 15 ans, en fait, moi je ne suis pas anglaise, ça s'entend, n'est-ce pas? Donc il y a 15 ans, j'ai vécu en Angleterre une trentaine d'années et... une trentaine d'années, on s'est rencontrés là-bas, on s'est mariés, on a eu 3 enfants. Et il y a une quinzaine d'années, un petit peu plus en fait, plus 4, ça fait 19, on a une prophétie, on a toujours, en fait quand on s'est rencontrés, on avait toujours à cœur la francophonie. Donc l'Angleterre pour moi, aussi bien que pour Suat, n'était pas, et notamment l'Afrique du Nord. Quand on s'était mariés, c'était clair, net et précis, on ne restait pas en Angleterre. Mais ce qui s'est passé, on était en fait l'année de notre mariage en 1992, on était à Paris et on voulait commencer la mission tout de suite, mais Dieu avait autre chose. Il a dit non, vous n'êtes pas assez mature pour la mission. Retour au bercail. Parce que j'étais déçue après 30 ans en Angleterre de retourner en Angleterre. Et donc on s'est dit un an ou deux, on retourne en Angleterre et on sera prêt, on reviendra. Finalement, le timing de Dieu est le meilleur. Il nous a gardés là-bas 17 ans de plus. Et c'était difficile, mais c'était la meilleure chose parce que c'était le timing de Dieu. Donc, à la fin de l'année, vers l'été 2010, on a enfin pris... on est enfin parti... vendu notre maison, acheté une maison ici. On a débarqué à Montpellier avec l'idée d'implanter une église avec nos 3 enfants. Et ça, c'est de la folie. Je ne vous conseille pas de le faire. D'emmener 3 ados de 16, 14 et 13 ans qui ne parlent pas la langue dans un pays où il n'y a pas d'église. Il n'y avait pas d'église à l'époque. On allait implanter une église. pour vous dire, nos filles qui avaient 13 et 14 ans étaient dans un groupe de jeunes où il y avait 100 personnes de leur âge, de 13, les 13-14 ans. Donc on arrive, et Dieu merci, il y avait le papa de l'église du papa de Mathieu, Marguerite. Donc pendant la première année, on s'est dit, monter cette église. Et donc il y a une poignée de jeunes et c'était salutaire pour nos enfants. Voilà, on a démarré, on a passé toute une année à Marguerite. L'année d'après, on faisait une semaine sur deux. Et un beau jour, Stuart me dit, je crois que c'est pas possible, il va falloir qu'on fasse toutes les semaines. C'était dans notre maison, on avait acheté une maison adaptée pour démarrer l'église dans notre maison. J'ai dit, c'est pas possible. Moi, j'avais lié des amitiés avec des femmes extraordinaires. On était bien, Marguerite. Il fallait partir. Et c'était déchirant. Mais donc, on est parti et on a commencé on a démarré l'église depuis 2012. Et là, on a une église d'une centaine de personnes, une trentaine d'enfants. C'est du labeur, mais Dieu est bon. On a vu, on a baptisé. Oh là là, le nombre de personnes qu'on a baptisées, mariées. Maintenant, c'est plein d'enfants, il y a plein de familles, etc., etc. Donc voilà, Dieu a béni, Dieu nous a aidés, et puis on verra la suite.
Donc vous avez les salutations de l'église La Source à Montpellier. On est à l'est de Montpellier, donc on vous salue. Mathieu est venu prêcher dans notre église l'année dernière, et c'était vraiment super. C'était juste que la moitié de l'église n'était pas là ce jour-là. C'était un peu dommage, mais parce que c'était vraiment bien. Mais voilà, donc vous avez la salutation de notre église. Vous savez qu'on est un peu plus sud que vous, même si on a l'accent anglais. Chez nous, on aime bien l'apéro. Je ne sais pas si ça se passe chez vous, mais il y avait un prof de philo avec sa classe à Montpellier et il enseignait sur un peu la vie et il a pris un gros bocal et il a commencé à mettre des cailloux dans le bocal et il a mis des gros bocaux jusqu'à ce que ça remplissait le bocal et il a dit est-ce que le bocal est rempli et les enfants ont dit oui c'est rempli puis il a pris des petits cailloux, il les a mis aussi dans le bocal, ils se trouvent entre les gros cailloux, il a dit, est-ce que le bocal est rempli? Ils ont dit, oui, c'est rempli. Et puis il a pris du sable, il a mis du sable dans le bocal, et ça, encore, ça remplissait le bocal. Donc, aux élèves qu'en fait, dans la vie, c'est important de choisir ce qui est le plus important. C'est comme les gros cailloux qu'il faut mettre d'abord dans nos vies, comme la famille, notre relation avec Dieu, notre mariage, les choses vraiment importantes, du temps de qualité, du temps avec, du temps de repos aussi, de mettre ces grosses choses. Et puis les autres choses, les loisirs, les autres choses moins importantes, on peut les mettre après tout ça. Sauf que dans cette classe, et c'est une bonne moralité ça, sauf que dans cette classe, il y avait quelqu'un au fond, il court vers le devant et il prend toute une bouteille de pastis et le met dans le bocal. Et ça remplissait le bocal, ça allait dans le bocal. Donc, moralité, peu importe combien la vie est remplie, il y a toujours du temps pour l'apéro. Vous avez bien compris? Voilà, ça vient du sud, c'est une blague, c'est pas la Bible. Bon, mais on nous a présenté une tupture, on a fait la blague, donc maintenant, plus de blagues. On va regarder la parole. En fait, on focalise vraiment sur un verset ce matin. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus début s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Nous allons parler un tout petit peu de qu'est-ce que c'est d'avoir soif. Qu'est-ce que c'est de venir à Jésus et qu'est-ce que c'est de boire du Saint-Esprit. Et c'est précisé qu'il dit cela à propos de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc on parle du Saint-Esprit ce matin, c'est Pentecôte. Mais nous devons avoir soif, venir à Jésus et boire. Donc, mais lorsqu'on parle du Saint-Esprit, On parle de quoi? Est-ce qu'on parle d'un certain sentiment qu'on a dans l'Église? Est-ce qu'on parle d'une certaine présence de Dieu lorsqu'on est ensemble? C'est quoi exactement? Je pense que c'est important qu'on se rappelle que lorsqu'on parle du Saint-Esprit, on parle d'une personne. Et pas n'importe quelle personne. On parle de la troisième personne de la Trinité. On parle de Dieu lui-même, en effet. C'est le Saint-Esprit. Et peut-être juste pour nous rappeler, avant qu'on regarde tout ça, que fait le Saint-Esprit? C'est une personne. Et c'est quelqu'un qui... C'est lui qui nous amène à Dieu. Parce que Jean chapitre 16, verset 8, dit « Quand il sera venu, en parlant du Saint-Esprit, Jésus dit « Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Donc si on est devenu chrétien, si on est chrétien ce matin, c'est parce qu'on a reconnu qu'on a péché, on risque le jugement de Dieu à cause de notre péché, et on a demandé pardon pour nos péchés, et on est venu à Jésus pour avoir la vie. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous amène à Dieu. C'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre de nous faire voir qu'on a besoin du pardon. Et la Bible dit aussi, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3, Paul dit, « Pourquoi je vous déclare, personne, si pas par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est maudit, et personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. » Donc si ce matin, vous pouvez dire Jésus est Seigneur, vous reconnaître Jésus comme votre Sauveur, votre Seigneur, c'est parce que le Saint-Esprit, il a déjà été à l'œuvre dans votre vie. Donc même si vous n'avez pas eu une expérience forte du Saint-Esprit, mais vous êtes venu à Christ, le Saint-Esprit est déjà là. Le Saint-Esprit agit dans votre vie. Le Saint-Esprit est décrit comme celui qui nous accompagne, celui qui vient à nos côtés, celui qui nous défend. C'est Jésus en Jean 16 qui parle du défenseur, celui qui viendra à nos côtés pour nous aider. C'est une aide, c'est quelqu'un qui nous aide dans la vie chrétienne. C'est aussi celui qui nous conduit dans la justice et à vivre une vie sainte. Galates 5, verset 6, c'est écrit, « Voici donc ce que je dis, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. » Et Galates, chapitre 5, verset 22, « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. » C'est le Saint-Esprit qui produit ça en nous. Il nous conduit dans la sainteté. C'est le Saint-Esprit. Il est saint, il est pur, il est Dieu lui-même. C'est lui qui nous donne une assurance que nous sommes des enfants de Dieu, qu'on a un Père céleste. Parce que en Romains, je crois que c'est écrit, en effet, « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est aussi écrit qu'il est le gage de notre héritage. Le Saint-Esprit nous apporte une assurance dans notre relation avec Dieu. Ça apporte une confiance dans notre relation avec Dieu. Il apporte la confiance que nous sommes véritablement les enfants de Dieu. C'est lui qui nous donne la force pour annoncer la bonne nouvelle. C'est lui qui nous baptise du feu et de passion. C'est lui qui était à l'origine, c'est lui qui a rempli l'Église en Actes chapitre 2, comme on a déjà dit ce matin, qui a re-rempli l'Église en Actes chapitre 4, qui est venu sur les non-juifs en Actes chapitre 10. On voit comme le Saint-Esprit descend sur les gens dans le livre d'Actes. Et il est comparé à de l'eau, ça parle de la vie, ça parle du renouveau. Il est comparé à le feu, ça veut dire qu'il purifie. Et dans la passion, c'est aussi décrit comme une colombe qui amène la paix, aussi la douceur de Dieu dans nos vies. Donc gloire à Dieu pour c'est lui-même, c'est Dieu lui-même qui vient dans nos vies. On ne parle pas juste d'une force ou de quelque chose qu'on expérimente dans certaines églises et pas dans d'autres églises, etc. Non, c'est vraiment Dieu lui-même et c'est lui qui nous a amenés à Jésus. Donc Amel va partager un tout petit peu par rapport à son expérience avec le Saint-Esprit, des choses que le Saint-Esprit a fait dans sa vie.
En ce qui me concerne, ça fera quasiment 44 ans, ce mois-ci, tout à l'heure on chantait « Les aveugles voient ». Et j'étais aveugle et le 25 juin 1981, j'ai vu. Je suis née en Algérie, en Kabylie, et je viens d'un arrière-plan hyper strict, mais grave, hein. Pas religieux du tout. La religion, mon père disait, c'était pour les vieux, on s'en fiche. Donc ça ne m'était pas imposé. Étant de nature un petit peu belle, donc je défiais ça, mais il y avait aussi dans mon cœur Dieu. Dans la parole de Dieu, c'est écrit que Dieu met l'éternité dans le cœur de l'homme. Et dès l'âge de 7 ans, ciel, et je me disais, c'est pas possible, on n'est pas là par hasard, il n'y a pas que ça. Et donc, voilà. Je réussis à l'âge de 21 ans de partir pour fuir le mariage forcé et un style que je ne souhaitais pas avoir. Le style de ma mère, de mes sœurs, de mes cousines, du pays. Donc j'avais suffisamment de force de caractère pour faire une fugue. C'est très douloureux et très difficile. Je ne le faisais pas parce que je détestais ma famille, mais je le faisais parce que Dieu avait demandé. Alors, à ma naissance, j'aurais dû mourir. J'étais née à 7 mois. Il n'y avait ni médecin, ni rien du tout. On était à la campagne. Ma mère m'avait laissée dans un panier parce que je devais mourir. Mais Dieu a dit, ce petit ver de terre là-bas, je la veux pour moi. Donc, je suis vraiment très confiante du fait que quand Dieu choisit, on peut se débattre, on peut se déchaîner, mais Dieu touche nos cœurs, Dieu nous sauve. Et donc, je me retrouve à Brighton, j'avais froid, ma famille me manquait, c'était difficile. Et d'un autre côté, il n'y avait plus le joug de la famille. Et je me tourne vers le ciel et je dis, Dieu, si tu existes. Et en fait, j'ai fait cette prière. J'étais jeune fille au père, j'avais une petite, je poussais le... Donc cette petite dans la poussette et j'étais triste, il faisait froid. Et j'ai regardé le ciel et j'ai dit, Dieu, si tu existes, interviens dans ma vie. Et ça a été, la semaine d'après, je me promène toujours avec la petite, je lui donne mon sac parce que je devais passer un coup de fil et la petite jette le sac par terre, j'ai perdu mon sac et c'était catastrophique, il y avait tous mes papiers dedans, etc., etc. Et par la grâce de Dieu, je vais vous épargner tous les détails, je rencontre une jolie femme, Jane, qui m'a tendu la main. En fait, elle venait juste d'arriver comme missionnaire parmi les Juifs à Brighton. Et donc, quand elle trouve ce sac, quand elle trouve mon identité, elle dit c'est peut-être une Juive. Voilà. Et elle sentait l'urgence de prier pour moi. Donc, pendant 15 jours, elle priait pour moi. Ensuite, elle m'a retrouvée dans une école de langue. Et on commençait à lire la Bible ensemble. Mais croyez-vous que malgré toutes mes souffrances et difficultés, que j'avais envie d'écouter ça, j'ai dit, oulala, le christianisme, qu'est-ce que c'est que ça? Une fois de plus, on va mettre un poids à la religion, je viens juste quitter tout ce tralala, et maintenant ça, je vais rentrer dans une religion. Non, 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 merci. Mais elle m'a encouragée, elle a persévéré, et c'est en lisant la parole de Dieu que Jésus disait mais des choses. Moi, j'étais très, très dans la politique, hein. Je voulais changer le monde jusqu'à ce que je lise la Bible et que j'ai compris que c'était moi qui devais changer, c'était pas moi qui venais changer le monde. Donc en lisant la Bible, j'ai trouvé, mais ce gars, mais c'est fascinant, extraordinaire. Il retourne les tables, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors dans ma tête, le petit intellect que j'avais, il est soit toc-toc, soit c'est la vérité. Et il fut un soir où, troublé par fatigué, tout ça, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et j'ai enfin cédé, enfin donné mon cœur à Jésus. Et comme dans la louange, là, les aveugles voient, je ne voyais pas. Elle avait plein de posters, cette fille chez qui j'étais, mais je ne comprenais pas. C'était du charabia pour moi. Et le, quand j'ai donné ma vie au Seigneur le 25 juin 81, j'ai vu. J'étais née de nouveau. Et je voulais, j'allais dans les rues et je disais aux gens, je suis chrétienne, Jésus est vivant. J'étais comme, pour moi, c'est toujours comme ça, c'est toujours beaucoup de passion. Et donc, après, la toute première fois que je commençais à fréquenter des coffee-bars, des études bibliques et tout ça, il y avait une dame un petit peu plus âgée que nous qui nous faisait une étude biblique. Et on lisait la Bible, l'évangile de Jean. Et un jour, un soir, pendant l'étude biblique, j'ai lu un passage et je lui ai dit, mais j'ai besoin d'être délivrée, quoi. Et elle m'a dit, ouais. Elle voyait que j'avais compris que j'étais prête. Et en fait, suite à ça, j'ai eu beaucoup de délivrance par rapport à des trucs générationnels de mes ancêtres. Et ça, de nouveau, libération. Mais c'était comme si je pesais 100 kilos et je descends à 50. Et après, donc, je commençais à fréquenter. Certains d'entre vous connaissent New Frontiers. Et on faisait souvent, une fois par mois, il y avait un rassemblement qui rassemblait 700, 800 personnes. Et un soir, Terry parlait du baptême du Saint-Esprit. Je lui ai dit, qu'est-ce que c'est que ce bazar? En fait, la fille était cessationniste. Elle ne me parlait surtout pas du Saint-Esprit. Elle m'enseignait la Bible, mais pas l'Esprit. Et là, je vais dans ce rassemblement et Terry dit, si vous voulez recevoir le Saint-Esprit, levez-vous. Une centaine de personnes s'est élevée. Et moi, dont moi. Et donc, je me suis levée. Et puis, voilà, je n'ai rien senti. Je me suis levée. Il a prié pour ces 100 personnes. Et je rentre chez moi. Là, je vais dormir. Ma copine était un peu fâchée. Elle m'a dit, t'es où? J'étais inquiète pour toi. Et je rentre dans mon lit. Je mets ma couverture sur ma tête. Et j'ai un fou rire extraordinaire. Et je commence à parler dans une langue bizarre. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Et j'étais très surprise. Mais j'étais très joyeuse, rassurant, et c'était... Et donc là, je passe de 100 kilos à 50, et là, à 40, il y a un poids qui se lève, je suis libérée, j'ai fini par comprendre, mais voilà, le Saint-Esprit est venu très très vite, j'avais 22 ans, et j'étais libérée, et là, je n'ai plus m'arrêter au niveau évangélisation, je pense que c'est bon.
Donc la Bible... Jésus dit qu'il faut avoir soif. Celui qui a soif, qui vienne à moi. Donc, la soif, c'est une sensation très forte. C'est une sensation qui est quelque part indispensable pour nous, car sans eau, nous allons mourir. Et la soif, c'est quelque chose... Lorsque Jésus dit si celui qui a soif, je ne pense pas qu'il parle vraiment de juste un petit désir, mais vraiment avoir soif. De lui avoir soif du Saint-Esprit. Donc, et la question que j'ai, c'est comment puis-je avoir soif? Est-ce que j'ai soif? Est-ce que j'ai soif ce matin du Saint-Esprit? Est-ce que j'ai soif de Dieu ce matin? Je pense que c'est important on peut avoir soif. Je pense que parfois on a soif parce qu'on entend ce que Dieu fait dans les vies des autres. Je me rappelle dans les années 90, lorsque notre église en Angleterre était touchée puissamment par le Saint-Esprit, il y a des gens qui sont allés au Canada, qui ont reçu quelque chose. Et le samedi matin, on avait une réunion de prière, mais la réunion de prière est passée d'une vingtaine de personnes à 150 personnes, parce qu'il y avait des gens dans l'Église qui étaient touchés par le Saint-Esprit et les autres voulaient le recevoir aussi. Parfois, on est encouragé à Dieu parce que on voit ce que Dieu fait dans les vies des autres. Parfois, on a acquérir un certain soif pour Dieu en méditant la Bible. Lorsqu'on réfléchit à ce que Dieu fait dans la Bible, ça suscite une foi en nous pour les choses de Dieu. Si on regarde ce que Dieu a fait dans le livre d'Actes, par exemple, on dit, oui, c'est non, c'est 3000 personnes qui se convertissent dans un jour, il y a des miracles, il y a plein de choses, l'Église qui croise partout. Mais rappelons que Jésus, il est lui, il est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Le Saint-Esprit n'a pas changé en 2000 ans et ce même esprit est avec nous aujourd'hui. Lorsque je pense au réveil qu'il y a eu dans le pays britannique, dans le 19e siècle, aussi parfois début du 20e siècle, où par exemple en 1904, où 100 000 personnes dans le pays de Galles sont devenues chrétiens dans l'espace d'un an, je me dis, bon, Dieu peut faire beaucoup plus qu'on a déjà vu. Le Saint-Esprit peut faire beaucoup plus qu'on a vu même dans nos vies. Et ça me donne soif. Ça me donne soif pour dire, Seigneur, viens nous remplir. Viens faire quelque chose de nouveau dans nos églises. Parfois, nos besoins, nos souffrances nous donnent soif de Dieu. J'ai passé 2 ans à Paris il y a des années et c'était les 2 ans les plus difficiles de ma vie. Et je ne faisais pas grand-chose dans ces 2 ans à part crier à Dieu, plaider avec Dieu, parce que je n'allais pas bien en moi-même. Et mes prières n'étaient pas très bien formulées, très propres. Ce n'était pas pour les autres, c'était juste désespéré. Mais lorsque je suis rentré en Angleterre après ce temps, j'étais vivement touché par le Saint-Esprit. J'étais délivré de plein de choses. J'ai reçu le Saint-Esprit comme je n'ai jamais vécu avant. Et Dieu, parfois, souffrance nous conduire à avoir soif. Et ma question pour nous ce matin, c'est, est-ce qu'on a soif pour toi? Est-ce que vous avez soif de Dieu ce matin? Parce que c'est lui qui a soif qui vienne à Jésus. Nous allons parler un tout petit peu aussi de comment venir à Jésus. Venir à Jésus. C'est nécessaire pour recevoir le Saint-Esprit de venir à Jésus. C'est Jésus qui donne le Saint-Esprit. Et peut-être ça peut être pour vous ce matin. Peut-être ce matin, vous n'êtes pas chrétien. Peut-être ce matin, vous êtes quelqu'un qui cherche la spiritualité. Vous ne savez pas vraiment ce que vous cherchez. Mais je peux vous assurer ce matin, il faut venir à Jésus. Il faut regarder ce que Jésus a fait. Jésus est venu. C'est comme Dieu qui est venu sur terre. Il nous a montré comment vivre. Il a vécu une vie sainte. Il a un peu bouleversé plein de choses lorsqu'il était sur terre. Amour pour les gens. Il avait une manière de faire qui était différente des religieux de son temps. Il est venu et il est venu exprès pour mourir comme sacrifice pour nos péchés. Mort à la croix, il a payé notre dette. Et si ce matin, vous ne connaissez pas Dieu, c'est Jésus qui est le médiateur entre toi et Dieu ce matin. C'est lui qui est mort pour tes péchés. C'est lui qui a payé ta dette. Tu n'as pas besoin d'être une personne meilleure pour venir à Dieu. Tu n'as pas besoin d'être une personne qui vient à l'église pour connaître Dieu. Tu viens à Jésus pour connaître Dieu. Tu viens à lui. Tu reconnais qu'il est mort pour toi. Tu mets ta foi en ce qu'il a fait pour toi à la croix. Et c'est comme ça que tu trouveras la vie. Et c'est lorsque tu viens à Jésus, Jésus te donne l'Esprit. Le Saint-Esprit va venir habiter en toi. C'est comme Dieu habite en nous et nous conduit dans la vie chrétienne. Donc, viens à Jésus. Mais aussi, même si on connaît déjà Jésus, je pense qu'on a besoin de venir à Jésus. On est déjà venu à Jésus, mais on a toujours besoin de lui. Et Amel va juste dire quelques choses sur comment il faut qu'on vienne à Jésus.
Alors moi, je pense que j'aimerais insister sur le fait qu'on vient à Jésus. Quelquefois, dans notre expérience d'église, aussi bien ce qu'on a vécu en Angleterre que depuis qu'on a implanté, c'est qu'on va vers les autres. Et c'est bien, il faut aller vers les autres. Mais aller à Jésus d'abord. Aller à Jésus, c'est vraiment un piège. Quelquefois, c'est les leaders, les personnes qui sont un petit peu plus avancées peuvent vous tendre la main, effectivement. Mais Jésus dit, venez à moi. Et il ne va pas ne pas répondre. Il va répondre parce qu'il est Dieu. C'est le créateur de l'univers. Donc, si on a soif, si on veut vraiment, on va y arriver. Moi, j'ai eu un démarrage très complexe. Hein. Ce n'était pas facile. Et aujourd'hui encore, je me remets en question. Il y a des choses qui ressortent au quotidien et périodiquement. Et je reviens à Dieu, ne serait-ce que la semaine dernière, une situation de quelqu'un d'autre qui m'a... Et c'était très lourd, c'était très difficile. Et mon réflexe, c'est de... Je vais appeler Stuart, il était en Angleterre. Je vais appeler Stuart ou je vais parler. Non, je suis venue à Dieu. J'ai regardé ça à la lumière de la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit m'a... Alors qu'au début, sur 0 à 9... J'étais pas effondrée, mais j'étais, c'était difficile à 8. Hein, et là, à la lumière de la parole de Dieu et par le Saint-Esprit, non, je relativise. Dieu sait ce qu'il fait avec cette personne. Dieu va lui parler. Cette personne est une femme de Dieu. Elle va y arriver. Je ne vais pas être anxieuse. Je ne vais pas être inquiète. Donc voilà, moi j'aimerais bien beaucoup vous encourager parce qu'on n'est pas dans une religion d'abord. On a une relation et chacun a cette relation avec Dieu. Et ce n'est pas, on passe pas par monsieur le prêtre ou pasteur. Pour avoir cette relation. Vous êtes enfant de Dieu. Si je suis enfant de Dieu, héritière de Dieu, co-héritière de son fils, mais j'ai accès. Amen. J'ai accès. Je peux pas continuellement aller demander à d'autres personnes. J'ai accès. Et c'est sûr que moi, j'ai été accompagnée par des femmes formidables, des couples de pasteurs formidables. Je vais pas vous mentir, j'ai pas fait tout ça toute seule. Et jusqu'à présent, c'est important. Les autres, le vis-à-vis des autres est important. La redevabilité est importante. Mais j'insiste sur le fait, venez à moi, à Jésus. Parce que si vous êtes sincère, si vous avez soif dans vos souffrances, dans vos joies, dans vos aspirations, venez à Jésus, il va vous combler, c'est clair. C'est très bien. C'est bon?
Super, merci. Et Jésus dit qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. Et peut-être on peut oublier le fait qu'il dit boivent. Et donc il y a quelque chose que pour recevoir la puissance du Saint-Esprit, on doit le recevoir, on doit... boire, il y a quelque chose que nous faisons, ce n'est pas juste quelque chose qui nous tombe dessus, mais que nous avons besoin de recevoir le Saint-Esprit. C'est un peu comme en Jean chapitre 4, verset 10, Jésus dit à la femme samaritaine, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu l'aurais toi-même demandé à boire et tu aurais donné de l'eau vive. Il parle du Saint-Esprit comme un cadeau, c'est un don de Dieu. Si Amel me fait un cadeau pour mon anniversaire, elle l'emballe et elle me le donne, mais je le reçois, mais je ne l'ouvre pas, je ne bénéficie pas du cadeau. Si je commande quelque chose sur Amazon à un point relais, et je paye, je fais tout ça, mais je ne vais pas au point relais pour retirer ce que j'ai commandé. Je ne bénéficie pas. On a besoin de recevoir le Saint-Esprit. Ce n'est pas juste quelque chose où on est passif pour recevoir. Jésus a dit en Luc 11, frappez à la porte, cherchez, vous trouverez. Demandez, vous allez recevoir. C'est important parfois que nous cherchons, que nous demandons à Dieu. Lorsque j'étais à l'université, j'ai demandé à Dieu le don de parler en langue. J'ai demandé pendant un an et j'ai rien reçu. Et j'ai demandé et je ne savais pas quoi faire. Un soir, j'ai prié avec deux frères et ils ont prié, Seigneur, donne-nous la foi de recevoir n'importe quel don que tu veux que nous recevions. Et quelque chose a changé en moi ce soir-là. Le lendemain, lorsque j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, j'ai beaucoup demandé pour ce don, mais merci de m'avoir écouté. Je crois que tu m'as entendu. Je veux recevoir, je veux croire. Et c'est là que j'avais quelques paroles, un peu comme fish and chips ou quelque chose comme ça. Et j'ai répété un peu les petits sons. Et au bout de 2 semaines, ça, c'était un fleuve de parler en langue, de prière, de l'inspiration du Saint-Esprit. Mais ce qui a changé le don, j'avais un blocage pour recevoir. Je croyais que Dieu pouvait faire ce genre de choses pour tous les autres, mais pas pour moi. Et parfois, ça nous bloque à recevoir les choses de Dieu. Il y a d'autres choses qui peuvent nous bloquer aussi. Parfois, ça, c'est la crainte. Parfois, on a peur de ce que Dieu va faire avec nous. Mais Dieu, c'est un papa. Dieu sait ce qu'il fait. Je sais que parfois, lorsque les gens sont touchés par le Saint-Esprit, il y a une réaction dans notre corps. Et parfois, on voit ça, on dit, oh, mince, je ne veux pas que ça arrive à moi. Mais ça m'est beaucoup arrivé dans le passé. Et je peux vous dire que Dieu m'a fait beaucoup de bien. Parce que Dieu est bon, Dieu sait ce qu'il fait. Même si parfois notre corps qui n'est pas pur réagit lorsque le Saint-Esprit descend sur nous. Parfois on a des questions intellectuelles qui peuvent nous bloquer. Mais je vous encourage ce matin à faire confiance en Dieu, faire confiance en ce qu'il va faire, faire confiance dans ce qu'il fait par le Saint-Esprit. J'ai pour finir juste une parabole un peu de deux sources. On a une maison dans les Cévennes et en face de l'autre côté de la route, il y a un bassin qui est alimenté par une source. Et ça fait 4 ans maintenant qu'on regarde ce bassin. Et petit à petit, le bassin se remplit de mauvaises herbes, d'algues. Et il y a peu d'eau qui reste dans le bassin. C'est un peu triste. Au début, c'était assez joli, mais ça remplit parce qu'il y a des saletés, il y a des choses qui poussent dans le bassin qui ont bloqué. Et parfois, on peut, ça peut être une parabole de nos vies, ça peut être une parabole de ma vie, que je laisse les choses grandir dans ma vie, je nettoie pas, je n'entretiens pas ma relation avec Dieu et ça bloque l'eau vive que Dieu veut faire couler en moi. La Bible parle, nous avertit de ne pas éteindre le Saint-Esprit, ne pas éteindre le feu du Saint-Esprit. C'est 1 Thessaloniciens 5, verset 19. La Bible nous parle de la possibilité d'attrister l'esprit. Éphésiens 4, verset 30. Et si vous lisez le contexte, c'est parce qu'il y avait du mensonge, il y avait des gens qui n'étaient pas sincères dans l'Église, et il y a ceux qui ont péché lorsqu'ils étaient en colère, il y a eu ceux qui ont volé et pas travaillé honnêtement, et il y avait des paroles malsaines. Ce sont des genres de choses qui peuvent attrister le Saint-Esprit. Ce n'est pas comme les mauvaises herbes qui poussent dans le bassin en face de notre maison. On peut aussi résister à l'esprit. Actes chapitre 7, c'est Étienne adressant aux Juifs qui les accuse de résister au Saint-Esprit. On peut mettre l'esprit à l'épreuve, mentir à l'esprit comme Ananias et Saphira en Actes chapitre 5. Il ne faut pas jouer avec le Saint-Esprit. Actes 5, si vous le lisez, vous allez voir qu'il ne faut pas mentir au Saint-Esprit. Il faut une sincérité. Il faut qu'on ne cache pas les choses de Dieu parce que c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui veut nous remplir de sa puissance. Donc, on peut être comme cette source. Et si c'est vous ce matin, je vous invite à vraiment réfléchir, demander à Dieu, venez à Jésus, viens à Jésus, parce qu'il est mort pour tous nos péchés, même les péchés qu'on a commis depuis qu'on est chrétien. Deuxième source, c'est la fontaine de Vaucluse. C'est pas très loin d'ici, je pense. Je l'ai rendu visite. Vous savez que dans un an, ça fait 630 millions ou milliards de cubes mètres d'eau qui est suffisamment pour 3 fois la ville de Paris chaque année, qui sort de la terre. Et c'est comme tout un fleuve d'eau qui jaillit, qui sort d'une falaise sèche. Et c'est comme ça que Dieu veut son Église. C'est comme ça que Dieu veut pour nous. Cette eau vive qui coule de nos vies, qui coule dans nos églises. Et pour moi, ma prière pour vous en tant qu'Église, c'est que vous soyez comme ça. Que l'eau coule avec une puissance, avec une force, et que ça touche la ville, ça touche la région autour de vous.
Je voulais simplement ajouter un dernier témoignage parce que, en fait, quand cette eau vive coule, c'est aussi pour, ça nous fait du bien, c'est bien pour nous, mais c'est aussi pour les autres. C'est se tourner vers l'extérieur. J'aimerais vous apporter un témoignage. À un moment donné, j'avais fait ce qu'on appelle, j'avais quitté mon travail pour faire une année de service dans l'église. On était une vingtaine de personnes, et donc 8 filles et 12 garçons. Et c'était une année très difficile pour moi. Plein de choses étaient remontées, etc. Mais pendant cette période-là, l'année était finie et tous mes potes étaient partis en vacances et moi je restais, j'avais pas les moyens et je pouvais pas aller en vacances et je me retrouve seule et j'avais peur de me retrouver dans un état de ou pauvre de moi, etc., etc. Mais par la grâce de Dieu. J'ai sorti un livre de. J'étais chez une amie qui était elle aussi partie en vacances. J'avais sorti un livre qui. Je ne me rappelle pas du tout du contexte et du livre, mais en lisant ce livre, le Saint-Esprit était tombé sur moi. Mais c'était quelque chose. Je n'ai plus jamais revécu ça. Mais j'avais tellement. Le Saint-Esprit était tellement fort. Que je ne voulais voir personne, non pas parce que j'étais pas bien dans ma peau, mais parce que je voulais passer du temps avec Dieu. Je priais, j'intercédais tout le temps. Et à l'église, c'était un peu gênant parce que dès que j'ouvrais la bouche pour prier, je m'effondrais. Il y avait comme une douleur à l'intérieur et c'était pas parce que Dieu était en train de guérir quelque chose, loin de là. C'était des pleurs pour les gens qui étaient perdus, pour les gens qui ne connaissaient pas le Seigneur. Et suite à ça, donc j'ai retrouvé du travail, donc je suis retournée dans la boîte où je travaillais avant de quitter American Express. Et sans mentir, je débarque, on me met dans un bureau un petit peu au fond au fin fond de, il y avait personne, j'avais pas de voisins, rien, c'était pas très bien. Et dès la première semaine, il y a une fille qui me ramène une autre fille qui me dit, voici Jackie, apparemment t'es chrétienne, elle veut passer du temps avec toi. Et donc je reçois Jackie, je passe du temps avec elle, elle devient chrétienne. Après, c'est sa copine Conchetta, après c'est Tilde, après c'est machin, après c'est Steve, après c'est... Et ça a fait boule de neige, il y avait une trentaine de personnes. On baptisait des gens quasiment toutes les semaines à l'église parce que Dieu... J'y comprends rien, hein. Franchement, c'est pas, ça ne sert à rien de comprendre. C'était l'esprit. Donc un tout petit mini revival... qui s'était passé au sein de cette entreprise. Mais avant de quitter, on était une bande de chrétiens et on priait, on allait dans le bureau du vice-président qui était chrétien lui-même. On avait prié pas mal. Et là, je quitte, je reviens et Saint-Esprit tombe sur moi et il y a plein de gens qui se convertissent. Donc, le Saint-Esprit, c'est aussi pour la mission, les amis. Et on est là... Si on pleure pas pour les âmes perdues, si on leur tend pas la main parce que on sait que ce qu'on a, c'est pas une association qu'on a rejoint, n'est-ce pas? C'est Dieu lui-même, le Créateur, qui a bouleversé nos vies, on peut pas ne pas le dire. Donc, le Saint-Esprit nous emmène à apporter l'évangile autour de nous. Il y a des milliers de Français qui ont besoin de l'évangile.
Donc, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à Jésus et qu'il boive. J'aimerais bien qu'on prie. Peut-être on peut se mettre debout et on va prier. Si vous n'avez jamais rencontré Jésus, je vais vous inviter à venir parler avec ma femme. Elle va prier avec vous. Donc, j'ai fait cette invitation si c'est vous ce matin. Sinon, si vous avez soif ce matin... Ou peut-être si vous êtes un peu comme ce bassin où les mauvaises herbes et autres choses ont poussé, je vous invite à venir par devant. On va prier pour vous. Si vous avez soif d'aller prêcher l'évangile avec puissance, j'aimerais bien prier pour vous. Saint-Esprit, c'est comme le feu. Je pense que le feu de Dieu va descendre. Donc, venez. Si vous voulez recevoir la prière, on va prier. Seigneur, merci pour ton Esprit Saint, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour cette assemblée. Seigneur, que ton esprit vienne maintenant. Vienne puissamment sur nous, Seigneur. Viens ce matin, Seigneur. Viens toucher les vies. Viens toucher les gens. Viens nous remplir, Seigneur. Nous avons soif de toi. Viens toucher nos vies ce matin. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen.